les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 novembre 2020. Le président américain Donald Trump participera aujourd'hui à la réunion du Forum économique Asie-Pacifique, APEC, organisé par la Malaisie, qui se déroule en ligne cette année en raison du COVID-19. Le forum rassemble les 21 pays du pourtour du Pacifique. Pékin est devenu le principal moteur de l'organisation ces dernières années, après que Washington a commencé à se retirer des structures multilatérales sous l'impulsion de Donald Trump. Présidentielle américaine, la Géorgie a confirmé la victoire de Joe Biden dans cet État à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, après avoir recompté à la main l'ensemble des bulletins de vote, a annoncé jeudi le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger. Le secrétaire d'État de la Géorgie devrait annoncer la victoire de Joe Biden de façon formelle aujourd'hui. La campagne de Donald Trump peut toujours demander un recomptage en Géorgie après la certification des résultats, la marge de victoire étant inférieure à 0,5%. Le référendum prévu le 8 décembre au Libéria sur une réduction de la durée du mandat présidentiel risque d'être reporté après une décision de la Cour suprême considérée comme un cinglant revers pour la présidence de George Weah. La Cour suprême a accédé à la requête des Collaborating Political Parties, CPP, une alliance de quatre principaux partis d'opposition qui réclamaient un report de la consultation constitutionnelle. Quelques 2 millions de Libériens sont appelés à approuver ou non huit amendements à la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat du présidentiel de 6 à 5 ans. Ils sont aussi invités à se prononcer sur une modification des règles qui permettrait la double nationalité, sujet hautement sensible au Libéria. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a invité le président ivoirien Alassane Ouattara à un dialogue politique large avec l'opposition pour mettre fin aux troubles meurtriers liés à l'élection présidentielle. Votre récente rencontre avec l'ex-président Henri Conan-Bédié, qui je l'espère sera étendu aux autres acteurs politiques, est une initiative importante et un pas nécessaire pour la consolidation de la paix, a écrit Antonio Guterres au président Ouattara dans un message de félicitations au président ivoirien pour sa réélection. Les violences liées à l'élection présidentielle du 31 octobre ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés depuis le mois d'août, selon un bilan officiel. Deux avocats, Richard Tamfou et Armel Tchomeng, sont en garde à vue depuis 2 jours au Cameroun pour de présumés outrages à magistrats, ont annoncé aujourd'hui leurs confrères. Maître Tamfou, en particulier, est un membre actif du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, l'un des principaux partis de l'opposition au président Paul Biya. Les cadres militants du MRC sont régulièrement la cible d'arrestations et de procès depuis que son leader, Maurice Kamto, arrivé en deuxième position, conteste la réélection de M. Biya en 2018. L'armée éthiopienne a accusé jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, originaire du Tigré, de chercher soutien et armement pour cette région dissidente. M. Tedros a démenti ces accusations dans un tweet. « C'est un rapport suggère que je prends parti dans cette situation. Ce n'est pas vrai. Je tiens à dire que je ne suis que d'un seul côté, celui de la paix », a-t-il notamment écrit. À New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a réaffirmé le plein soutien du secrétaire général Antonio Guterres aux responsables de l'Organisation mondiale de la santé. 16 personnes ont été tuées en Ouganda dans 2 jours de heurts déclenchés par une énième arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021, le populaire chanteur Bobby Wine, et la situation restait tendue et chaotique jeudi à Kampala. Le bilan est donc désormais de 16 morts et 45 blessés, certains grièvement, a déclaré à l'AFP le chef de la police et de la métropole de Kampala, Moses Kafiro. Et puis, les autorités égyptiennes ont arrêté jeudi Karim Enara, le directeur exécutif d'une ONG locale de défense des droits humains. Troisième membre de cette entité à être placé en détention en moins d'une semaine, a annoncé jeudi l'initiative égyptienne pour les droits personnels. Jean-Roger Bion à ce micro, restez en notre compagnie dans un instant, la suite du journal.
La suite de nos informations ce vendredi 20 novembre. En Guinée, les avocats de 5 opposants arrêtés il y a une semaine ont dénoncé hier l'absence d'éléments mettant en cause leurs clients et de multiples irrégularités dans les procédures judiciaires. Les détails avec Michel Joseph.
Ibrahima Chérif Ba, Selou Baldé, Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba et Étienne Soropogui ont été écroués dans le cadre d'enquêtes sur les violences autour de la présidentielle du 18 octobre. Selon leur avocat, ils ont été inculpés pour fabrication, détention et usage d'armes de guerre et d'armes légères. Les avocats ont relevé l'absence d'éléments à charge, fustigeant une démarche qui consiste à interpeller d'abord et inventer les infractions par la suite. Human Rights Watch, dans un rapport, accuse les forces de sécurité d'avoir recouru à une force excessive contre les manifestations de l'opposition à Conakry. L'ONG a dénombré au moins 12 morts. L'UFDG, le principal parti d'opposition, parle de 49 morts. Les autorités dénombrent 21 morts, dont des membres des forces de sécurité. Pour leur part, les autorités accusent les leaders de l'opposition d'être responsables pour avoir, selon elles, appelé à la violence.
Au Sénégal, une mystérieuse maladie est apparue dans plusieurs localités de pêcheurs à travers le pays. D'après les premières victimes, c'est un bateau industriel qui a déversé un liquide en mer, à la suite de quoi ils ont été contaminés. Des prélèvements ont été effectués par les autorités pour vérifier cette thèse. Pour le moment, le nombre de cas ne cesse de croître. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
C'est de Tiaroy-sur-Mer que l'alerte est venue, mais rapidement, Rufus, Kumbour et d'autres localités sont venues s'ajouter à la liste des villages traditionnels de pêcheurs où des cas sont notés par dizaines. C'est de Tiaroy-sur-Mer que l'alerte est venue, mais rapidement, Rufus, Kumbour et d'autres localités sont venues s'ajouter à la liste des villages traditionnels de pêcheurs où des cas sont notés par dizaines. Cette mystérieuse maladie non encore identifiée se manifeste par des yeux rouges, des éruptions cutanées sur le visage et le corps. Les premiers contaminés sont des pêcheurs revenus de mer qui l'ont transmis à leurs proches, d'où la vague de nouveaux cas enregistrée ces dernières heures. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont mis en place une cellule de crise et placé plusieurs personnes en quarantaine dans différents sites, dont le Stade Ngalon Diouf de Rufisque. 82 cas, il y a plus de 48 heures. On parle actuellement de plus de 500 infectés. La première conséquence de cette situation est la psychose qui touche les populations et la décision de beaucoup d'entre elles de ne plus manger du poisson en attendant que les autorités sanitaires découvrent l'origine de cette maladie. Seydina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
Le Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies a demandé jeudi aux Américains de ne pas voyager pour les fêtes de Thanksgiving jeudi prochain. Selon le CDC, la pandémie de COVID-19 est en pleine phase d'expansion sans précédent, alors que la Thanksgiving est la grande fête où les Américains voyagent le plus pour se retrouver en famille. Abdourahman Dia.
Henry Walkie, responsable du CDC pour la pandémie, a indiqué lors d'un appel avec la presse que ce n'est pas une obligation, mais une recommandation forte. Il a expliqué que le nombre de cas aux États-Unis avait fortement augmenté après les week-ends prolongés de Memorial Day, célébrés fin mai, et de Labor Day en début septembre. « Nous voulions lancer un appel avant la prochaine fête », a-t-il dit. Thanksgiving, le dernier jeudi du mois de novembre, est la plus grande fête familiale aux États-Unis. Les aéroports, les gares et les routes sont surchargés. Beaucoup d'Américains prennent traditionnellement le vendredi pour un long week-end de retrouvailles familiales. Le gouvernement fédéral, sous l'autorité du président Donald Trump, n'a imposé aucun confinement ni aucune limite dans les déplacements, une décision qui est laissée aux 50 États de la Fédération américaine. Une autre responsable du CDC a indiqué que la façon la plus sûre de célébrer Thanksgiving cette année est à la maison avec les membres du foyer. Le CDC recommande aussi aux étudiants qui reviennent des campus universitaires de s'isoler pendant 14 jours.
C'est l'heure à présent de la minute info avec John Lidon.
La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a mobilisé 3,8 milliards d'euros lors de la table ronde avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux tenus à Paris les 17 et 18 novembre 2020. Ces fonds devraient servir à la réalisation de 11 projets dits intégrateurs dans les 6 pays membres de la CEMAC sur la période 2021-2025. En RDC, le prix du cuivre est monté à un peu plus de 7 000 $ la tonne, tandis que celui du cobalt est en légère baisse sur le marché international. Selon les données de la Banque centrale du Congo, la production du cuivre a augmenté de presque 16% pour atteindre 1 308 millions de dollars en décembre 2019. La RDC est le premier producteur de cuivre d'Afrique et le leader mondial pour le cobalt dont le prix a chuté en 2019 jusqu'à 30 000 $ la tonne. La croissance économique de la Côte d'Ivoire, selon le Conseil des ministres tenu mercredi, pourrait rebondir à 6,5% contre 1,8% en 2020. Initialement prévu pour s'établir à 7,20%, le taux de croissance a reculé jusqu'à 1,8% avec une perte de 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Les dépenses liées au COVID-19 ont coûté plus de 107 milliards de francs CFA à l'État ivoirien.
Et maintenant la page des sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Contrôlé positif au Covid-19 vendredi dernier, la Fédération égyptienne de football a indiqué que l'attaquant des Pharaons, Mohamed Salah, a de nouveau été testé positif, comme le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed El Nini. Salah n'a pas pu participer à la double confrontation contre le Togo, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, reportée à 2022, auteur de 10 buts en 13 matchs cette saison, dont 8 en 8 rencontres de Premier League. Mohamed Salah ne prendra pas part à la rencontre face à Leicester City dimanche dans le cadre de la 9e journée de Premier League. En Angleterre, justement, Pep Guardiola a prolongé de 2 saisons son contrat avec Manchester City, a annoncé le club avec lequel il est désormais lié jusqu'en 2023. Arrivé à Man City en 2016, l'ancien Barcelonais de 49 ans, dont le contrat se terminait à l'été prochain, a remporté 2 titres de champion, 1 Coupe d'Angleterre, 3 Coupes de la Ligue, mais jamais la Ligue des champions, objectif majeur des Citizens. L'équipe a remporté 181 des 245 matchs disputés sous ses ordres, un taux de succès de 73,87%, a précisé le club qui souligne qu'il a transformé le jeu de l'équipe avec une philosophie générale très inspirée du Barça, où il a joué 9 ans et qu'il a entraîné 4 ans. Et puis un an après le succès du Mondial féminin de football, la FIFA entend mieux protéger les joueuses enceintes et imposer un congé maternité à ses fédérations membres. Nouvelle étape dans la professionnalisation de la discipline. Nous voulons voir plus de femmes jouer au football et en même temps avoir une famille, a expliqué Saraï Bareman, responsable du football féminin au sein de l'instance mondiale. La FIFA a donc annoncé qu'elle proposerait lors de son conseil de décembre une série de mesures applicables à partir de 2021 à ses 211 fédérations membres qui offrent pour l'heure des garanties très inégales selon le droit et les pratiques locales. Les clubs engagés au niveau international devront proposer un congé maternité d'au moins 14 semaines, dont 8 après la naissance, rémunéré au minimum les 2/3 du salaire contractuel de la joueuse. Ici aux États-Unis, nous parlons de basketball. Les Minnesota Timberwolves ont choisi l'arrière Anthony Edwards en première position de la draft de la NBA qui a eu lieu la nuit dernière pour la première fois en visioconférence. Ici de l'Université de Géorgie, ce joueur athlétique 1m98 intégrera une équipe qui possède déjà un noyau de jeunes stars avec le pivot Karl Anthony Towns et l'arrière D'Angelo Russell. Les Golden State Warriors ont choisi en deuxième position l'intérieur James Wiseman et les Charlotte Hornets ont opté pour l'autre meneur, LaMelo Ball. Ces jeunes joueurs et les 53 autres sélectionnés ont 1 mois pour s'adapter à un nouvel environnement professionnel, intégrer un collectif avant le coup d'envoi de la saison le 22 décembre. Côté africain, 8 joueurs d'origine nigériane ont été sélectionnés pour cette draft 2020.
Page de sport, VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo. Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, en votre compagnie Jean-Roger Billon. Place maintenant au dossier du jour. Les électeurs burkinabés se préparent aux élections de dimanche. Le Burkina Faso va choisir son président et renouveler les sièges de députés à l'Assemblée nationale. 15 communes ne pourront pas participer à ces élections à cause de l'insécurité. Le point avec l'un de nos correspondants à Ouagadougou, Kader Traoré.
De 22 communes au départ, elles seront finalement 15 qui ne participeront pas aux élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Elles n'ont pas pu participer à l'enrôlement biométrique des électeurs organisé en août dernier par la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Parmi ces localités, il y a celle de Nassombo et Tongomael dans la région du Sahel, Kanyi au nord, Logobu à l'est, Gombori dans la boucle du Moun, toutes des zones qui ont été fortement touchées par les attaques terroristes.
Il y a une quinzaine de provinces au Burkina Faso qui ne sont pas concernées, ce qui représente environ 17,70% du territoire national selon le Conseil constitutionnel.
Paul Mickey Rwamba, journaliste à la radio Ouaga FM.
Il faut dire déjà que les élections législatives, la circonscription électorale étant la province, cela voudrait dire simplement que les provinces qui sont concernés par cette situation d'insécurité, il y aura quand même certaines communes, certaines parties de la province qui vont participer au vote. Donc on aura quelques votes que l'on va enregistrer à l'échelle de la province et les résultats seront extrapolés sur l'ensemble de la province pour élire les députés.
La situation est certes malheureuse, mais le problème avait déjà été évoqué par la CENI et l'ensemble des candidats aux élections législatives et présidentielles. Jacques Balima, observateur politique.
Ce problème avait été posé au niveau de la CENI avec les différents candidats, les acteurs politiques. Et je pense bien qu'une solution avait été trouvée, c'était de faire avec les communes qui pouvaient abriter effectivement ces élections.
Effectivement, cela ne pose aucun problème, puisque sur le plan juridique, une solution a d'ailleurs été trouvée. Diaka Koulibaly, analyste politique.
Il y a eu une réforme du code électoral qui a permis de prendre en compte le fait que certaines communes ne pourront pas voter. Et cette modification du code électoral a été validée par le Conseil constitutionnel, ce qui la rend conforme à la Constitution elle-même. Donc d'un point de vue juridique, il n'y a vraiment pas de difficulté à ce qu'on puisse organiser les élections sans certaines communes, qui d'ailleurs, selon les services de l'administration territoriale, ne comptent plus d'habitants.
Ces populations sont désormais considérées comme des déplacés internes et une session d'enrôlement a même été organisée à leur effet. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
En Ouganda, alors que la campagne bat son plein en vue des élections de janvier, les candidats peinent à suivre les directives pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus. Voici un reportage de Halima Atoumani à Kampala. Le récit est de Michel Dezay.
Que la campagne pour les élections générales du 14 janvier en Ouganda s'accélère, il est souvent difficile de dire qu'il y a une pandémie en cours. Beaucoup d'Ougandais ignorent simplement les appels à la distanciation sociale ou au port des masques lors des meetings. Les responsables électoraux exhortent les 11 candidats à la présidence à prendre les devants et encourager les populations à aider à contrôler le virus. Paul Boukenya est le porte-parole de la commission électorale.
Your first statement will be to the people.
Votre premier message devrait être, veuillez mettre vos masques. Si vous ne mettez pas vos masques, je ne vous parlerai pas. S'il vous plaît, distanciation sociale. Pouvez-vous respecter la distanciation sociale? Mettez la distance qui est recommandée.
L'Ouganda a recensé plus de 16 000 infections au Covid-19 et au moins 150 décès. Lors d'un événement de campagne dans le nord du pays, le président Yoweri Museveni a déclaré que tous les candidats devraient organiser des rassemblements avec distanciation sociale, même si ses propres meetings attirent plus de foule.
Donc, cette faillite a rassemblé les gens dans une période aussi dangereuse et criminelle. Et nous allons traiter avec les auteurs.
Mais il semble que la sécurité vise plutôt l'opposition. La police a dispersé violemment les foules soutenant les partis d'opposition, alors que les manifestations du parti au pouvoir se déroulent sans incident. Le parti de la plateforme nationale d'unité, dirigé par Robert Kyagulanyi, mieux connu sous le nom de Bobby Wine, et le Forum pour le changement démocratique, ont été cités comme des partis rebelles. Avec des masses de jeunes, des villes excitées de voir leur idole Bobby Wine, des chansons comme celle-ci sont courantes. Wine a été arrêté à Jinja, dans l'est du pays, au premier jour de sa campagne, pour avoir, selon la police, violé les mesures de lutte contre le coronavirus. Joe Sagnoni, le porte-parole de la plateforme de Bobi Wine, estime qu'il est difficile pour le parti de s'assurer que tous ses partisans pratiquent la distanciation sociale et portent des masques.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on.
Ces gens qui nous attendent en bordure de route et ainsi de suite, que faites-vous d'eux? Ce sont des Ougandais qui ont soif de changement. Quand ils se tiennent en bordure de route et agitent les mains et tout cela, ils ne commettent pas de crimes non plus.
Hier, la police a affronté pendant plusieurs heures à Kampala de jeunes manifestants en colère suite à l'arrestation de Bobi Wine. Selon le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, il y a eu 7 morts et 45 blessés. Dans un communiqué lundi, le parti au pouvoir a déclaré avoir ordonné à la police de disperser toutes les processions organisées par ses membres à travers le pays. Les candidats sont autorisés à faire campagne jusqu'au 12 janvier, 2 jours avant les élections.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Depuis le 4 novembre, des combats opposent l'armée fédérale éthiopienne aux forces régionales du TPLF, le Front de libération des peuples du Tigré. Ce conflit intervient après des mois de tensions entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales du Tigré. Les conséquences humanitaires des combats sont graves, avec environ 27 000 réfugiés dans les pays voisins, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Et beaucoup redoutent un enlisement et des débordements dans toute la région. Pour une analyse, Bagassi Koura, adjoint à Paris, Roland Marchal, du Centre de recherche internationale à Sciences Po.
Écoutez, il était prévisible, il n'était pas inéluctable. C'est-à-dire que au moment où Abiy Ahmed a été élu, on aurait pu imaginer que les relations entre la direction tigréenne et Abiy Ahmed, finalement, se normalisent très rapidement et que, puisqu'il a bénéficié d'une partie des voix du Front populaire de libération du Tigray et que les choses allaient de l'avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fois, il y a eu un durcissement du côté tigréen et de l'autre côté, également, du côté de Abiy Ahmed, il y a eu la volonté d'inscrire la dynamique politique du pays dans sa propre personne. Il est devenu essentiel au pays et de changer le parti qui était au pouvoir, la coalition qui était au pouvoir, transformer ça en un parti pan-éthiopien, plus centralisateur que ce que désirait la direction tigréenne.
Est-ce que Abiy Ahmed dispose de suffisamment de soutien dans l'armée pour gagner cette guerre-là?
Non, je ne crois pas. Enfin, je crois que la situation est en fait beaucoup plus complexe et on le voit puisque les forces du côté gouvernemental qui interviennent au Tigray sont à la fois certains contingents de l'armée, mais également les milices du pays Amhara, donc qui est frontalier avec le Tigray, ce qui montre quand même que le gouvernement à Addis Abeba a quelques problèmes avec son armée. Et de fait, on sait que l'armée, le contingent qui était en Somalie sur la base d'un accord bilatéral avec Mogadiscio, a été rappelé en Éthiopie. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a pas mal de temps qui est passé à vérifier la fidélité de cette armée au pouvoir central à Addis Abeba.
Et est-ce qu'il faut craindre des débordements quand on voit que l'aéroport d'Asmara en Érythrée a été atteint?
Écoutez, la direction du Tigray a décidé de bombarder Asmara, enfin l'aéroport d'Asmara, je crois surtout pour signaler à la communauté internationale l'urgence d'intervenir dans une médiation. Donc on peut l'interpréter comme un signe de faiblesse politique du TPLF, du Front populaire de libération du Tigray, qui sait qu'il ne peut pas aller très très loin dans sa confrontation armée avec le gouvernement d'Addis Abeba et des troupes éthiopiennes qui arrivent par l'Érythrée. D'un autre côté, je crois que l'Érythrée et le gouvernement érythréen, président érythréen, puisque le gouvernement n'a pas beaucoup de pouvoir, c'est le président qui a tout, doit être très attentif au fait que si ce conflit dure, il peut effectivement déstabiliser le plateau érythréen et d'une certaine façon avoir des conséquences qui seraient bien plus grandes que ce qui s'est passé entre 1998 et 2000 pendant la guerre, cette fois-ci entre l'Érythrée, mais pas contre Mekelle au Tigray, mais contre Addis Abeba.
Roland Marchal, chercheur au Centre de recherche internationale à Sciences Po à Paris, en France.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Congo-Brazzaville, la population s'exprime diversement suite à l'annonce de vaccins contre le coronavirus. Nombreuses sont les personnes encore réticentes à se faire vacciner. Et pourtant, les scientifiques du pays, comme la professeure Francine Ntoumi, rassurent sur la sécurité des vaccins. À Brazzaville, le reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Au bureau de l'OMS Afro à Mafuta, dans le sud de Brazzaville, le responsable vaccin et lutte anti-Covid assure que des stratégies sont en train d'être mises en place pour que l'Afrique bénéficie également du vaccin dès que le tout premier sera homologué. Docteur Richard Nigo.
La Banque mondiale, dernièrement, a annoncé 12 milliards de dollars qui pourraient aider 100 pays à travers le monde, y compris beaucoup de pays africains, à financer une partie de ces vaccins. La Banque d'import et d'export africain qui a décidé de mobiliser autour de 5 milliards de dollars dans cet effort. Les vaccins viendront certainement aider nos pays africains à revenir à un semblant de vie normale.
Dans son laboratoire de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, la professeure Francine Toumi, les yeux dans le microscope, est à la recherche de la source du virus Covid qui circule dans le pays. C'est important pour le type du vaccin à adopter, explique-t-elle.
Il faudrait d'abord que ces vaccins, quels qu'ils soient, il est souhaitable qu'ils soient testés aussi en Afrique pour connaître leur réelle efficacité sur nos populations. Parce qu'il n'est pas dit qu'un vaccin qui a 90% d'efficacité aux États-Unis aura aussi cette efficacité sur le continent. Donc l'Africa CDC prépare des sites cliniques pour pouvoir tester ce vaccin-là. Il n'y aura pas du vaccin pour tout le monde, il n'y en aura pas assez. Donc chaque pays doit déterminer quelles sont les populations qui devront avoir accès en priorité, qui devront être vaccinés en priorité.
Les Brazzavillois, eux, loin des analyses scientifiques, ont une opinion partagée sur ce vaccin tant attendu. Nombreux s'étaient même déjà montrés très hostiles à une éventuelle campagne de test de ces vaccins.
Les gens ont maintenant peur de ce vaccin. Donc, à mon avis, là, le vaccin, c'est pas la vraie solution. La solution est certainement ailleurs.
Aujourd'hui, déjà à Brazzaville, bon nombre de Congolais ne croient pas à l'existence de la Covid ici à Brazzaville. Et accepter le vaccin, je pense qu'ils seront assez réticents.
Et beaucoup de Congolais dépendent de leurs petites activités commerciales avec Dubaï, la Chine, la Turquie, la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la situation du coronavirus, les frontières se sont refermées. Mais grâce à ce vaccin, les gens pourront à nouveau se mouvoir avec des cobayes d'une répertoriée aux États-Unis. Cela, évidemment, fait plaisir pour savoir que les Noirs sont aussi maintenant considérés. Nous ne sommes plus des cobayes comme les autres.
Selon le dernier point, les autorités sanitaires annoncent 93 décès sur plus de 5600 cas de contamination de Covid-19. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.